Travail nocturne.
Profession nocturne.
Présenté par les étudiants et étudiantes de Paris 1.
Sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans un voyage parmi les invisibles.
Bonsoir et bienvenue. Nous plongeons ce soir dans l'obscurité du travail de la nuit. Travail invisible pour la plupart des diurnes que nous sommes, nous tenons ces bénéfices pour acquis. Ces conséquences sont toutefois loin d'être invisibles pour, ou indolores pour les principaux concernés. Pendant que la plupart d'entre nous nous mettons au lit, toute une société s'active dans l'anticipation du jour qui viendra. Ce travail invisible, le travail de la nuit, assure nos nuits et prépare nos jours. Nous tenterons de mettre un peu de lumière sur des lieux et sur des vies de l'ombre avec l'éclairage de plusieurs portraits documentaires, suivis d'entretiens avec ceux qui les ont réalisés. J'ai à mes côtés Baptiste, qui interrogera les différents intervenants tout au long de l'émission sur tous les aspects que revêt la vie de nuit. Baptiste, bonsoir.
Bonsoir Raphaël. Alors, on est là avec l'ensemble de l'équipe et on va surtout se demander ce soir ce qu'est le travail de nuit, en quoi c'est un enjeu et en quoi leur travail nous impacte au quotidien.
Pour aiguiller notre discussion, nous commençons par une incursion dans la vie nocturne, la vie avant tout nocturne d'un bar. Nous sommes avec les trois réalisatrices du portrait que nous allons entendre, Cerise, Zineb et Brittany.
Alors, Cerise, Zineb, Brittany, j'ai une première question pour vous. Pourquoi singulièrement avoir choisi ce lieu et cette personne, en l'occurrence, là, il s'agit de Isée.
Alors d'abord pour le lieu, donc on a choisi le 5e arrondissement de Paris parce que c'est un des quartiers les plus étudiants, donc on s'est dit que ça allait être facile de trouver des gens qui seraient intéressés et des gens surtout qui ressemblaient à la personne qu'on voulait interviewer. Et pour la personne, donc on a choisi Isée, mais en fait on l'a pas vraiment choisi parce que le choix s'est fait de lui-même parce qu'on cherchait une femme. Et qu'en fait, en faisant le tour des bars du 5e arrondissement, bah, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait que deux bars, dont l'annexe où Isée est responsable là-bas. Et elle a tout de suite accepté, et ça a été une très chouette rencontre, donc c'était assez évident pour nous qu'on la choisisse.
Je m'appelle Isée, j'ai 23 ans. Là, maintenant, je travaille dans un bar dans le 5e arrondissement, qui fait du 17h-2h du matin. J'ai fait des études, j'ai fait plein de choses, mais là, que ça devienne mon vrai métier à temps plein en CDI, c'est un peu une passion, je pense. De moi, par exemple, mon rêve, c'est d'ouvrir un bar. C'est le métier qui m'a appris mes plus grosses limites et qui me permet en fait tous les jours de me remettre en question. Ton rapport aux autres, ton rapport aux hommes, ton rapport à toi-même, ça te pousse à être plus cadré et plus carré et plus rigoureuse en fait sur ta vie à côté. On est très décalé. Ta journée et la nuit. Moi je m'oblige à me lever le matin. Non, ta vie ne sera pas que de la nuit et que de l'alcool et que de la fête et que tout ça. Moi, j'ai la chance en fait d'être responsable du bar où je travaille et surtout, je suis très souvent en shift seule. C'est un métier qui demande beaucoup de batterie sociale. C'est toi qui portes en fait ta terrasse, ton bar, qui va porter aussi toutes les personnes qui sont autour de toi. On va avoir tendance à être fatigué un peu mentalement. Il suffit aussi que, je sais pas, c'est pas tout rose parfois dans la vie et il t'arrive des choses dans ta vie et ben, en fait, tu dois quand même sourire. Moi, les staff hommes que j'ai eus, c'est souvent devenu des très très bons amis, un peu même des grands frères en fait finalement. Ils nous idéalisent d'une certaine manière, d'être en mode « Ah ouais, bah, c'est un peu des monstres en fait, elles sont capables de faire la même chose que nous et de le gérer. » Pour être très honnête, je ne m'en rappelle pas de la dernière fois où je n'ai pas bu. C'est pas un cliché, hein. Toutes les personnes qui travaillent dans des bars ont pas un souci avec l'alcool, mais ont un sujet du moins avec l'alcool. On a quand même une tendance à boire qui est banalisée et normalisée. Je dis pas que tous les soirs ça veut dire qu'on boit à outrance, on n'est pas du tout bourré, on va dire tous les soirs et ivre mort, mais ça va être un verre, deux verres qui va pas nous mettre dans des états d'alcoolémie en fait, mais foncièrement sur le papier c'est quand même un verre ou deux. Tu vas avoir un groupe de mecs ou un groupe de meufs sur une terrasse, ils commencent tous un peu à être bourrés, tout ça. Ils vont venir au bar. il y a un côté un peu fidélisation du client qui fait que tu deviens un peu pote avec eux, tu rigoles, tu leur offres des shots, mais t'en prends avec eux. Les clients qui t'offrent des shots aussi parce qu'ils veulent boire avec toi, même si c'est pas tes potes, tout le monde incite tout le monde à boire en fait. Faut pas être heureuse quand on a notre premier verre dans le sang. Faut être heureuse de base. Je connais vraiment mes limites au travail. Je sais quand je dois arrêter de boire, du coup tu leur mens et tu fais des shots d'eau et alors que tu leur mets de la tequila quoi. C'est le monde du bar hein, c'est le monde du bar. Je représente une forme de liberté. Un cliché de... On a l'impression qu'une nana derrière un bar, c'est une nana foncièrement un peu perdue de la vie, quoi. Tu représentes un fantasme masculin. Tu es très souvent sexualisée, en fait. Donc c'est à toi aussi, quand même, de savoir qui tu es, d'où tu viens, ce que tu veux. Il faut savoir mettre des limites. Je suis au travail pour travailler et pour assurer un service. Je suis responsable. À la fin, je dois faire une caisse. Je dois assurer que ça ne soit pas le bazar. Il faut toujours avoir ça en tête, en fait, de ce n'est pas la vraie vie. Donc moi, le bar est dans le 5e, je devais rentrer dans le 17e tous les soirs. Il y a plusieurs options. Moi, j'ai toujours pris l'option de la sécurité. Sauf qu'il faut savoir qu'à un moment donné, moi, ça me coûtait pratiquement 500 euros par mois de rentrer en Uber. Il y a 2-3 fois où j'ai pris de nos clients et je ne l'ai jamais refait.
Voix féminine, voix jeune, ambiance festive. Il est question de choix de carrière, en quelque sorte. Peut-être d'une certaine vocation pour le travail des bars. Il est question de relations humaines, notamment hommes-femmes, de la santé aussi, de consommation d'alcool, de la sécurité. Nous sommes toujours avec Zineb, Cerise et Brittany qui ont réalisé ce reportage. Baptiste, vos questions ?
Je voulais savoir comment, à travers ce reportage, votre vision de la personne derrière le bar avait pu potentiellement changer.
Ben, en fait, moi déjà, il faut savoir que le bar, la vision du bar, j'y pensais pas trop. Alors déjà, une femme derrière un bar, j'imagine déjà une femme derrière un bar, mais je me suis tout de suite dit que c'est pas dans la généralité forcément. Elle nous a tout de suite fait part du fait que, par exemple, on est étudiants entre nous. Faut savoir que du coup, il y a beaucoup d'étudiants qui se penchent des fois vers les métiers de la nuit pour avoir un salaire assez conséquent. Mais du coup, elle nous a rappelé qu'en fait, faut avoir la tête sur les épaules, faut être heureuse de base avant de travailler dans un bar ou quoi que ce soit et pas avec un verre dans le sang. Bah, pour moi, c'est une phrase qui m'a marquée du coup. Et du coup, je l'admire parce qu'aussi, elle a un certain caractère et elle est capable de remettre à sa place et de mettre des limites, de placer des limites, tout en gardant un équilibre entre le confortable et le non, en fait, ça se fait pas.
Et notamment dans votre échange avec Isée, est-ce que vous avez pu être témoin, comme elle mentionne à un moment donné la possibilité de recharger ses batteries sociales, est-ce que vous avez pu être témoin justement de sa capacité à elle d'admettre ce fait-là, quoi.
C'est intéressant parce que je suis retournée la voir plusieurs fois dans le bar. Et j'ai assisté à son dernier shift parce qu'elle a arrêté de travailler là-bas. Et donc, c'était l'exemple parfait de tous ses copains réunis au même moment pendant qu'elle doit travailler. Et donc, ça a dû lui prendre beaucoup d'énergie. Et donc, je l'ai vue faire et c'est vraiment une queen. Enfin, elle est tout le temps là. Elle gère tout en même temps alors que, pour le coup, elle a fait la fête en même temps parce que c'était son dernier shift. Donc, elle m'a vraiment, vraiment impressionnée.
Mais en même temps, elle a expliqué que c'est vraiment difficile de garder cette batterie sociale. Et le fait aussi que même si elle n'a pas envie de travailler, même si elle n'a pas envie de sourire, elle doit se forcer pour continuer comme ça. Et donc ça, c'était impressionnant.
Super, merci beaucoup Cerise, Zineb et Brittany.
Merci.
Continuons notre exploration du monde de la nuit. Après le premier portrait sur le monde de la fête qui s'est terminé par une évocation de la hantise du bus de nuit, faisons une incursion dans le bus de nuit justement. C'est ce que nous proposent Luce et Raphaël qui ont préparé le document que nous allons entendre. Il s'agit de conversations captées dans un bus de nuit.
Alors, salut Raphaël. Alors, question commune à toutes et tous. Pourquoi avoir choisi du coup le Noctilien ?
Parce qu'on voulait. En fait, on a fait une fiction avec un audio qu'on a pris dans le Noctilien directement, en essayant de mettre en lien ce qu'on a pu ressentir, ce qu'on a vécu, nos questionnements par rapport au Noctilien. Et puis, on a fait une sorte de rétrospective sur cet audio-là, avec nos voix de maintenant et comment on l'a senti.
Je suis tombée sur un vieil audio de nous, frère.
Putain, Lula, t'as toujours cette manie d'accumuler les vieilleries.
Mais c'est des souvenirs, en vrai, ça fait réfléchir. Attends, regarde ça, tu te souviens de ça ?
Puce de nuit 2010, attends, c'est pas...
Si, je te jure que si, c'est l'enregistrement dans le bus après les 17 ans de Sarah, mec.
Putain, on était tellement jeune et con.
En vrai, on parle de choses hyper intéressantes, même si on juge beaucoup, je trouve.
Je crois qu'on se rendait pas vraiment compte. En vrai, on prenait le bus que pour rentrer de soirée, quand ma mère ne voulait pas payer le taxi, quoi.
C'est vrai.
En vrai, je suis contente que tu sois rentré avec moi parce que j'avais trop le seum si t'avais pris un Bolt. Parce qu'en vrai, j'aurais pris un Bolt si j'avais de la thune, mais là, je n'ai pas.
Tu te rappelles, on était impressionnés de voir notre quotidien d'une autre lumière.
Même tu me disais qu'en tant que meuf, c'était pas trop ton endroit préféré.
Ouais, je me rappelle. Je rêvais de bus de nuit qu'avec des meufs, genre. C'était un de mes sujets de conf préférés. J'en parlais tout le temps, genre. À chaque fois qu'on prenait le bus de nuit, j'en parlais.
En vrai, c'est trop bizarre de passer par des endroits que tu connais quand t'es gosse, mais de nuit, quand tu rentres de soirée.
Surtout qu'on ne serait jamais passé de nuit quand on était gosse. Ouais.
Ouais. Est-ce qu'il va y avoir des bus de nuit que de meufs ?
Ah bon ? À Paris ?
Ouais. C'est pour ça que je fuis les Noctiliens, tu vois. En vrai, ça me fait plaisir parce que là, t'as le point, tu vois, mais genre, je fuis ça parce que du coup, genre, forcément, tu sais pas trop qui y a dans le bus, tu sais pas trop comment ça fait ça, tu vois. Le chauffeur, il conduit, il peut pas s'occuper de toi, on va te faire gaffe.
En vrai, ça change pas trop aujourd'hui. Genre, tu peux demander au conducteur de s'arrêter la nuit et genre, il y a des vidéos qui sont faites par des meufs pour éviter des agressions, mais c'est pas vraiment ouf, quoi. Toi, tu dirais quoi à ta fille ?
Je pense que j'aimerais qu'elle se sente en sécurité partout où elle va, tu vois. Genre, on sait que le monde, il est pas aussi sûr qu'on souhaiterait. Du coup, je lui filerais 2-3 petits tips, genre se placer près du conducteur ou encore près de la sortie, tu vois. Mais j'ai pas envie qu'elle parte avec des a priori et qu'elle se freine. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, je vois. Et ta mère, toi, elle t'avait dit quoi à propos de ça ?
Ah, pas rien du tout, mais genre, on n'en a pas du tout parlé. Genre, j'ai appris sur le tas, en vrai. Genre, en allant dans le bus de nuit avec toi, enfin, voilà quoi.
Et même, je me dis, genre, notre vision sur les conducteurs et ce travail, bah, ça a grave changé depuis.
Quelle vision ? C'était comme si c'était personne. Genre, juste des inconnus qui faisaient leur taf. Tu te rappelles, nos réflexions, elles étaient hyper naïves.
Je sais même pas s'ils changent, tu sais, le chemin, genre, est-ce qu'ils font toujours le même bus et le même chemin, et genre, ils font toujours la même chose. Et genre, tu sais, tu connais le chemin par cœur, mais du coup, au bout d'un moment, c'était horrible, genre, de toujours voir la même chose.
Tu vois, en mode, tu sais, genre, je sais pas si tu vois les vidéos des gens qui sont en mode rentrée du taf et qui mettent, genre, des rideaux occultants et tout, genre.
Ouais.
Tu sais, ça se voit, genre, je sais pas, mais vivant inversé.
Oui, les gens qui vivent de nuit.
Genre, c'est comme quand on était ado, tu vois. Quand on était ado, on était trop en mode inversé parce qu'on dormait la journée jusqu'à
4 heures. Oui, mais ça, c'est être une période, c'est pas cette ta vie de base. C'est ultra bizarre d'être décalé comme ça tout le temps. En fait, c'est genre, la majorité des gens sont pas décalés. Genre, imagine avoir une relation de couple en étant aussi décalé.
Ouais.
Genre. Ça veut dire que vous ayez le même taf avec la personne avec qui tu vis. Parce que sinon, vous ne voyez jamais, quoi.
C'est vrai que maintenant, quand on a des potes qui bossent dans le milieu, on se rend plus compte que c'est des vraies personnes derrière le volant.
Ouais, même toutes ces problématiques auxquelles ils sont confrontés. On n'était pas du tout au courant. Genre l'insécurité, les agressions.
Les vols, les dégradations, la fatigue et même être constamment vigilant. Genre.
Ouais, en vrai, c'est beaucoup d'isolement. C'est vrai qu'on a beaucoup plus une vision d'ensemble maintenant.
En vrai, c'est bien d'avoir gardé ça. C'est cool de voir qu'on peut changer avec le temps.
Ouais, que genre... Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis contente.
Bon, bisous. À la prochaine.
Rentre bien.
Merci. Ciao.
Ciao.
Voix jeune, voix adolescente cette fois. Un peu immature, un peu innocente, mais pas totalement naïve. Une pointe de jugement, mais aussi un retour sur son propre passé. Un certain regard sur ses nuits de jeunesse où la nuit n'est qu'une fête. Un moment d'évasion de la vie familiale. Où l'on est absent, où l'on ne se soucie pas justement de la réalité plus large de la nuit, de l'au-delà de la fête. Baptiste ?
Alors Raphaël, j'avais quelques questions pour toi. Notamment, je voulais savoir, toi en tant qu'homme, est-ce que selon toi, on se sent plus en sécurité quand on voyage la nuit en groupe ? Parce que votre reportage met un petit peu en avant cette notion de sécurité dans les transports.
Oui, bah du coup, c'était sur quoi on voulait revenir, c'est que même Luce, c'est ce qu'elle raconte, elle aurait sûrement pas pris le noctilien seule la nuit, et ça l'a rassurée de partir avec quelqu'un. Et puis nous aussi, on a eu des réflexions autour de ça, et on s'est dit que bah, prendre seul le noctilien, c'est quand même une affaire un peu compliquée, parce qu'on connaît personne, on sait pas qui est là, on sait pas quelle situation on va rencontrer. Et aussi, en fait, on s'est rendu compte que prendre beaucoup le bus de nuit, ça nous fait aussi nous rendre compte que c'est pas... Enfin, qu'on a beaucoup d'a priori et de jugements là-dessus. Et finalement, enfin oui, pour nous, prendre le noctilien en groupe, c'est plus simple.
Et dans votre reportage, vous dites que vous avez l'impression que le transport, il est automatique. Tu saurais expliquer d'où vient cette impression ?
En fait, on parle d'automatisme parce qu'on s'est demandé si le chauffeur ou la chauffeuse faisait tout le temps le même chemin et donc créer un automatisme sur ce chemin, un peu d'une manière aliénante, dans le sens où on refait toujours la même chose, toujours les mêmes tâches. Et du coup, ça nous donne l'impression que bah, vraiment, c'était quelque chose qui se répétait. Après, à titre nous, on n'a pas l'impression que c'est automatique pour nous, quoi.
On rappelle que tu as fait le reportage avec Luce et on te remercie, Raphaël.
Merci beaucoup.
Continuons notre exploration du travail de la nuit, du travail invisible, dont les conséquences diverses sont loin de l'être. Allons voir ceux qui travaillent, ceux qui s'activent pour que la nuit puisse être une fête pour certains et un repos douillet pour la plupart. Au travail, Julie, Pauline et Anouk ont consacré leur reportage. Elles donnent la parole à une gardienne de nuit. Son travail commence à la fin de la journée.
Alors, Julie, Pauline et Anouk, une question la même depuis le départ. Pourquoi avoir choisi ce lieu et pourquoi cette personne spécifiquement de la gardienne de nuit ?
Alors, on a choisi d'abord un lycée qui se situe dans le 12e arrondissement. Et du coup, la personne qu'on a interrogée, donc, c'est une gardienne, la gardienne de ce lycée, qui en plus est une personne un peu, entre guillemets, de l'ombre. Du coup, ça nous intéressait. Et puis, elle travaillait en soirée. Donc, c'était la bonne personne.
Super. Eh bien, on écoute votre reportage.
L'établissement va fermer ses portes. Merci de vous diriger vers la sortie.
Et voilà.
C'est bon, ça.
Oui. Alors. C'est bon.
Le temps est fermé. On est doté d'un bip maintenant pour anti-agression. Enfin, pour prévenir, en fait, en cas d'agression. Donc, madame le proviseur a le même pour recevoir, elle, justement, cet appel de détresse, on va dire.
Depuis combien d'années exercez-vous ce métier de gardienne de lycée ?
Ça fait 28 ans. Donc voilà, je suis arrivée en 1997.
Et quels sont vos horaires ?
Normalement, j'étais du soir là pour la dernière semaine, puisqu'à partir de la semaine prochaine, je ferai le matin, l'ouverture donc. Donc c'est 6h30, 15h. Et quand on est de fermeture, c'est 11h30, 20h.
Et selon vous, qu'est-ce qui différencie le fait de travailler de jour ou de soir ?
Je trouve que dans la journée, il y a beaucoup plus de monde. On ne se rend pas trop compte de ça. Les heures passent vite. Le soir, à partir de 15h que mes collègues partent, je suis seule jusqu'à 20h, j'ai le temps. Même s'il y a du va-et-vient, que je suis occupée, je veux dire, voilà. Mais c'est pas la même chose, j'ai personne avec qui parler ou voilà, échanger. Je veux dire, je suis, oui, réellement toute seule. 15h, j'ai fini ma journée, je rentre chez moi, j'ai le temps. Puis le temps même, si j'ai envie de me reposer, regarder un film, faire quelque chose pour moi perso, j'aurai plus de temps que le soir. La journée, quand vous finissez à 15h, vous rentrez chez vous, bah, en tant que maman, en tant que... Voilà, vous avez le temps de faire beaucoup de choses. En finissant là, par exemple, bon, ce soir, c'est exceptionnel, c'est 19h, mais tous les soirs à 20h, bah, oui, vous le faites, mais ça, voilà, ça vous rallonge la journée, quoi. Puis il y a la fatigue, je veux dire, c'est pas la même... Vous n'êtes pas dans le même entrain quand c'est le soir que la journée.
J'allais vous dire, c'est le jour et la nuit.
Est-ce que vous observez des impacts physiques de ce métier concrètement ?
Moi, si, c'est pénible parce que pathologie fait que je marche et que c'est très douloureux pour moi. Mais sinon, quelqu'un d'autonome vraiment...
Il faut quand même être en forme pour faire ce métier, quoi.
Oui, déjà. Ouais. Bah oui. Enfin, c'est physique. Ah oui. Au bout de 28 ans, bien sûr que là, je peux pas... Enfin...
Quand on prend, par exemple, les collègues qui travaillent, eux, je trouve que c'est même beaucoup plus difficile pour moi. Hein. parce que nous, c'est ce que je dis, c'est pas physique, mais c'est beaucoup mental et voilà, qu'elles sont quand même, c'est plus physique. Il y a toujours cette, je ne vais pas dire rivalité parce que c'est pas le mot, mais elles vont toujours dire, oh mais oui, mais bon, vous vous êtes assise, vous avez pas grand chose à faire, alors que pas du tout, parce que le téléphone sonne constamment. On a des appels, on a des gens qui viennent, on a les livreurs pour les colis, on a le courrier à franchir, le courrier à aller dispatcher. Moi, j'ai des élèves qui me disent « Oh, mais là, oui, vous êtes au chaud, vous n'avez que juste à appuyer sur un bouton. Je ne comprends pas pourquoi vous ne nous laissez pas rentrer. » Enfin, bon.
Merci. Les deux dernières. Celle-là.
Est-ce que vous avez l'impression de jouer un rôle important dans l'espace public, même si ça peut paraître un métier un peu invisible ?
Oui, non, moi je trouve. Oui, je trouve, quelque part, parce que bon, si on n'était pas là, ça se fait pas tout seul. Chaque personne, je pense, a sa place et se sent quand même utile, hein, parce que sinon ça ne servira à rien de travailler ou de faire ce qu'on fait, bah oui. Ça fonctionne, et puis voilà, je veux dire que si j'étais pas là pour ouvrir la porte, eh ben personne ne rentre ou ne sort. Après, je ne dis pas que je suis indispensable, non, c'est pas ce que je dis. Hein. Personne n'est indispensable.
Puis, normalement, j'ai toute la partie là à fermer. Donc. Donc voilà, c'est ça. Et on est... Voilà. Voilà, c'est ça. Pareil.
Poids du travail de la nuit plus noire que les précédentes que nous avons entendues, de la nuit de ceux qui montent la garde, de ceux qui tiennent le fort pendant que d'autres fêtent et dorment, ou dorment, c'est le portrait de la vaste majorité des vies de nuit, au fond des vies ordinaires de la nuit, ceux pour qui la nuit n'est pas nécessairement une vocation, mais une sorte de compromis, parfois un dépit. Toujours avec Julie, Pauline et Anouk. Baptiste, vos questions.
Selon vous, quel préjugé votre reportage a cherché à mettre en avant et qu'est-ce que vous, plus largement vous avez cherché à montrer à travers votre reportage ?
Ah, alors du coup, il y a plusieurs préjugés oui, qui sont associés à son métier. Le fait que ce soit une personne dont le métier consiste juste à s'asseoir et à regarder défiler les heures et les élèves qui passent. Mais en réalité, en fait, on a vu que ça va bien au-delà de ça et que la difficulté, même si physiquement, on ne l'aperçoit pas forcément, elle est beaucoup mentale. Et puis, c'est un travail donc, qui se passe le soir et ça a beaucoup donc, d'effets sur son mode de vie, son rythme de vie qui sont compliqués.
Et puis l'idée, au fond, c'était véritablement de montrer qu'au-delà de leur simple présence à l'accueil, bah, ces gardiens, ces gardiennes, elles ont un rôle sur l'organisation de ces établissements et puis sur le fonctionnement général du service public. Et je pense que cette facette, en tout cas, il me semble, elle peut être dupliquée à tous les reportages que l'on a écoutés et que l'on va encore écouter. L'idée que sans ces personnes, il ne se passe pas vraiment d'événements, de choses.
Super, merci beaucoup Julie, Pauline et Anouk.
Merci.
Allons maintenant au cinéma. Le cinéma, non pas comme lieu de la nuit, bien qu'il puisse en faire partie, mais comme lieu de diffusion culturelle qui peut nous dire quelque chose sur la nuit, sur le travail de nuit. Comment le cinéma nous fait-il voir le travail de nuit ? Est-ce qu'il participe à son invisibilité par sa romantisation, par son esthétisation ? Ou permet-il d'en prendre conscience pour ceux qui ne le vivent pas ? Le document que nous allons entendre est réalisé par Baya et Rebecca.
Alors, pourquoi avoir choisi ce lieu et pourquoi être allé à la rencontre des personnes que vous avez choisies ?
Alors, comme lieu, on a choisi le Lucernaire, un cinéma du 6e. Et c'était assez drôle parce que pour le coup, on parle des métiers invisibles, des métiers dans l'ombre. Et dans cette salle de cinéma, il faut savoir qu'on était deux à voir ce film. Enfin, nous deux et un autre couple. Donc, ça dit beaucoup de choses déjà. Mais voilà.
Ok, alors, du coup, on va revenir sur le film qui était celui que vous êtes allé voir. Le documentaire de François Ruffin et de Gilles Perret, Au boulot. Le point de départ du film, c'est François Ruffin qui rencontre sur le plateau TV des Grandes Gueules Sarah Saldman, une avocate et chroniqueuse qui tient un discours néolibéral. Tous les chômeurs sont désassistés et l'ascension sociale n'est qu'une question de mérite. François Ruffin propose alors à Sarah de s'évader de son monde bourgeois pour rencontrer à travers toute la France des travailleurs et travailleuses qui essayent de vivre avec le SMIC et qui sont sortis du chômage. Et spoiler alerte, Sarah ne change pas son discours, mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est de découvrir les conditions de vie et de travail de ces personnes. Alors, écoutons le micro-trottoir d'Anna et David, que vous avez rencontrés à la sortie du cinéma et qui racontent en fait le ressenti du film.
Bah, moi, c'est Anna et David, donc mon copain. Moi, j'ai voulu voir ce film dès que j'ai vu la bande-annonce. Pour autant, je ne fais pas du tout partie du même milieu que la protagoniste. Mais moi, je ne me rends pas forcément compte de la difficulté, de la dureté de la vie d'un certain métier. Et c'est vrai que ça a fait une petite piqûre de rappel aussi.
Moi, j'ai eu la chance, en tout cas, de faire des petits boulots dans un restaurant, comme serveur, comme veilleur de nuit. Aussi pour avoir fait le bénévolat en prison ou dans des EHPAD quand j'étais plus jeune. Pour moi, c'est une chance. C'était dur, hein, parce que c'est pendant les études. Je l'ai fait pendant une dizaine d'années, ces petits boulots quand même. C'est de monde différent. Enfin, c'est... Après, c'est son boulot d'avoir ce masque de méchant.
Oui, c'est son boulot. Oui.
Mais présente.
Oui, oui. Elle incarne aussi un certain discours. C'est pas que elle personnellement.
Joue, ouais. Elle, dans ce récit, elle
c'est son emploi. Voilà, elle est comme au théâtre. Plus moi je fais de la recherche, donc je réfléchis souvent à la question de discours, pourquoi on dit certaines choses et comment c'est les représentations aussi qui circulent déterminent ce qu'on dit. Elle a essayé de lui faire changer son discours. Vous voyez comment elle n'employait pas les mêmes mots.
Non, mais j'ai relié effectivement sur ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'en général, on fait un suspens de l'irréel quand on lit un conte de fiction, un récit de fiction. Et là, en fait, je pense que c'est la mécanique inverse. Ces gens comme Sarah font un suspens de la réalité, en fait. Ils se disent « ça me touche », mais elle rentre à nouveau dans son personnage.
Oui, elle s'invente son conte, on va dire.
La réalité. En
fait. On peut aussi être pas très aisé ici en France et on est quand même beaucoup plus aisé que les personnes qui ont un dollar, deux dollars par jour pour vivre. Et nous aussi, on est des Sarahs par rapport à ça. On est aussi des Sarahs, malheureusement, et ça, c'est horrible.
Après la séance de cinéma, vous avez un peu parlé en fait, autour de ce film, notamment des métiers que vous ne connaissiez pas et dont vous n'imaginiez même pas l'existence.
Bonsoir, on peut boire un verre ? Merci. Bon bah voilà, au Select, on est accueillis.
Je vais prendre un jus de fruits.
J'ai pris un coca. Il y a plein de moments où j'ai commencé à pleurer, vraiment. C'était tellement émouvant. Je trouvais voilà, ces 3000 personnes avec des histoires individuelles et personnelles. Et, tu vois, le monsieur qui travaillait aussi pour la boîte d'emploi, là, qui était informaticien, qui déposait plein de CV et qui était constamment rejeté. Évidemment, ça te déprime. Tu sors plus pendant 3 ans. En fait, tu veux avoir ta place. Tu trouves ta place avec ton travail, même si c'est un travail entre guillemets. Chiant. Si quand même un truc qui te donne un peu d'identification quand même, si t'as pas de rêve, t'as tout ce côté-là qui te manque, c'est encore pire.
Je crois qu'il y avait plusieurs fois où quand même t'avais la figure de la femme séparée, ou alors c'était le mec, et j'ai trouvé que aussi ces situations étaient très précarisantes. Le franco-afghan là, qui est restaurateur, et qui dit je suis obligée de prendre une nounou pour garder ma fille parce que je suis obligée de travailler et que on est séparés avec ma femme.
On va voir les conditions de travail aussi, je sais pas, le livreur de colis, bon, 30 secondes pour livrer un colis. Après aussi le truc des poissons, il fait super froid là-dedans.
restée debout pendant je sais pas combien d'heures. Là, un monsieur qui disait « Ah oui, mais moi je suis devenue Robocop pratiquement parce que bon,
lui, ça m'a choqué parce qu'il a 38 ans.
Il avait l'air d'en avoir.
Et il avait deux bras en métal, une jambe.
Voilà. Ouais, c'était fou.
Ça, c'était.
Vraiment, c'est des métiers qui te détruisent
physiquement aussi.
Et voilà, genre les petits paquets avec le poisson dedans. Ouais, il y a qui pense au fait qu'il y a vraiment des personnes derrière qui font ça, quoi.
Mais moi, j'ai trouvé ça se voyait aussi. C'est que par ta classe sociale, ça marque ton corps. Et tu voyais dans le corps de Sarah sa façon de se tenir. Ouais. T'avais des personnes qui avaient des déformations au dos et elle, tu voyais un corps en bonne santé, mais parce que elle était riche, quoi.
C'est déjà voir des métiers qu'on connaît pas du tout, voir des conditions de travail qu'on connaît pas du tout. On risque rien à la fin du mois. C'est des trucs auxquels on pense pas en fait.
Tu veux qu'on demande l'addition ?
J'avais du coup quelques questions pour vous. La première, c'est quel lien vous avez pu faire à travers le film de François Ruffin et Gilles Perret entre leur production et le travail nocturne de manière générale.
Alors, le lien avec le travail nocturne, il n'est pas direct, mais avec Rebecca, on s'est plutôt dit que c'était les conditions précarisantes qui pouvaient se retrouver dans les personnes qui exercent un travail nocturne. Donc, la façon dont le corps est marqué par le travail que les personnes font, l'importance aussi du travail pour se faire des relations sociales, amicales.
Ok. Très rapidement, après ce documentaire, est-ce que les travailleurs de l'ombre vous paraissent un peu moins obscurs maintenant ?
Moi, ce que je trouvais très intéressant, c'est que vraiment à travers ce film, moi, j'ai découvert plein de métiers dont je ne connaissais pas l'existence. Donc, de ce point de vue-là, oui, vraiment, j'ai l'impression que, à travers ce film, les métiers ont eu la chance d'être vus. Ce qui m'a vraiment marqué aussi, c'est la volonté de ces personnes de travailler. On en parlait aussi avant dans le reportage concernant la gardienne. Mais donc de ce sentiment de vouloir se sentir utile. On l'a beaucoup vu dans le film et vraiment c'est une chose qu'on oublie souvent et que surtout le discours néolibéral donc de cette Sarah Sadman oublie. Mais c'est que les gens veulent travailler, ils veulent avoir un emploi, un boulot. Et voilà.
Oui, qu'ils ne sont pas fainéants comme elle l'avait présupposé.
Terminons notre parcours dans Paris par l'épicerie. Lieu familier, lieu du quotidien, ce lieu des fins de journée qui nous échappe, ce lieu qui nous dépanne de jour, mais surtout de nuit, oasis d'après-festivité, ce lieu parfois ouvert lorsque tout est fermé. Le document que nous entendrons est réalisé par Héloïse et Sarah, Baptiste.
Alors, pourquoi ce lieu et pourquoi être allé à la rencontre de ces personnes ?
Parce que donc cette épicerie, parce qu'elle était à côté de la gare Le Gord, qui est un club très réputé dans Paris et donc très fréquenté. Et pourquoi l'épicerie ? Parce que l'épicerie, c'est quelque chose d'hyper important. Finalement, les épiciers, c'est des héros de la nuit qui nous dépannent tous les jours. Et pourtant, ils sont sans cesse invisibilisés. Ils sont souvent côtoyés par des gens qui sont alcoolisés, qui passent en coup de vent et qui prennent pas le temps en fait, de discuter avec les épiciers. Et nous, on a voulu mettre ça en avant, créer du lien social et en savoir plus sur leur quotidien.
Super, on écoute votre documentaire.
Merci beaucoup. On se débrouille pas mal. On est là, on travaille petit à petit, ça va. Des fois, mais il y a des cloussards qui viennent des fois nous embêter devant nous. Ouais, ils viennent prendre les trucs, après ils s'en vont, ils ne payent pas.
Ah, manger les
clous. Je suis là pour ça.
Ok.
Ouais, c'est ça.
Ok. Toi, tu surveilles du coup ?
Ouais, c'est ça. Oh. Ouais, ça fait 2 ans et quelques d'ici là, je travaille. Ouais.
C'est quoi les produits phares ? Plutôt...
Il ouais, y a alcool, il y a boisson, il y a body.
Vody, mais non, mais non.
Il est de moi, toi, là. Tu connais déjà. Tu
ah
goût,
oui,
là.
Oui, je connais. Ah, surtout ouais. Elle, surtout
moi,
elle.
Moi, si je me connais en Vody, c'est je peux pas prendre la Vody. Parce que Vody, j'ai fait une fois, c'était pas très bien. Quoi. Ah.
Ouais.
C'est déboulonnage quoi.
On ferme à 10h, on ouvre à 5h. Mais moi je commence à 20h.
Ça va, t'es pas trop décalé par rapport à la vie de
ça
jour?
Ça va, la journée, le temps, ça va.
Parce que,
j'ai juste à côté.
Ah, ça c'est
bien. Mais,
ah, mais moi aussi, j'habite là-bas. Ouais. En vrai, ça va, c'est sympa. Hein.
Ouais. Ça fait 4 mois maintenant et j'ai habité ici, là, juste à côté. Cool.
Et qu'est-ce que tu préfères dans ton travail?
Que les clients soient heureux, c'est tout. Hein. C'est plaisir.
Bah ouais.
Ouais.
Une madame, elle est là, achète quelque chose, dépose de le vélo à côté là-bas. Madame, entrez. 2 minutes. C'est quelqu'un a volé le vélo. 2 minutes.
Oh. 2 minutes, oui. Quelqu'un a volé le vélo.
Oui.
Ah oui.
Bruit comme ça. C'est pas normal ça.
Ouais. Et toi, t'as jamais eu de problème
Problème de colossal, oui, beaucoup de colossal.
Et ça va de travailler la nuit?
Oui, c'est bon.
T'arrives à t'adapter avec la journée et tout.
Très gentil, patronne, elle est payée et tout.
Ah, la patronne est gentille.
Ok, c'est cool.
Donc il y a des bagarres,
oui.
Des gens alcoolisés.
Ouais, ouais.
Il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Moi, elle,
okay.
Il est arrivé, c'est comme ça. Et
comment
vous les faites sortir?
Non, elle est payée. C'est pas payé tout. Ouais, sorti.
Ok.
Moi, pas bagarrer avec lui. Moi, ouais. Accepté, c'est pas grave.
Ok.
Ok.
Ah, t'es gentil, hein.
Ouais.
Ouais, merci. Ah, 50 s'il vous plaît.
Alors, bah, je veux bien payer par 15 euros. C'est gentil ça. Non, oui, ils acceptent pas.
50 s'il vous plaît, c'est l'argent.
Bah oui.
Bon, bah, merci beaucoup.
Merci.
Bonne soirée. Au revoir.
De retour de l'épicerie, lieu de travail des invisibles, de réels invisibles que nous prenons totalement pour acquis. Baptiste.
Alors, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous a impressionné dans la réalisation de votre documentaire auprès de ce lieu particulier?
Ben, je pense que ce qui nous a le plus impressionné, c'est que lorsqu'on leur parle d'anecdotes, ils nous parlent de délits, de conflits. Ils font face tous les soirs à des clients bourrés, à des vols, des conflits. Ils doivent être en constante vigilance, en fait. Je pense qu'on était un peu naïfs, car pour nous, l'épice, c'est lié à des souvenirs légers, joviaux. Ils sont toujours ouverts. Dès qu'on a besoin de quelque chose, jour comme nuit, on sait qu'on peut trouver une épice. C'est un luxe qui est porté par des personnes qui sont maintenues dans une constante vigilance, parfois jusqu'à 5 heures du matin. Devoir rester alerte, c'est pas anodin, c'est fatigant. Par exemple, l'un des deux devait gérer la sécurité, devait rester debout de 20h à 2h, mais debout, du coup, littéralement. Enfin, c'est dur. Bref, ouais, ils sont impressionnants et on les aime. Voilà.
Super, merci beaucoup Héloïse et Sarah.
Merci donc à tous les réalisateurs de ces portraits lumineux sur la vie de la nuit. Avant de poursuivre plus avant l'émission, faisons une courte pause musicale.
Mother against daughter, father against son, the whole thing is getting out of hand. But folks wouldn't have to suffer if there was more love for your brother, but these are trying times. Got the riots and the ghetto, and it's all around. A whole lot of things that's wrong is going
Après avoir exploré l'univers du travail de nuit par le biais de portraits documentaires, notre exploration du travail continue, mais avec un invité. Nous avons invité un sociologue à venir nous donner son éclairage sur les nombreux aspects interreliés du travail de la nuit. Il est professeur de sociologie à l'Institut d'études politiques de Paris, communément appelé Sciences Po. Il est chercheur au Centre de sociologie des organisations. Ses recherches croisent la sociologie du travail et la sociologie du droit, la sociologie des relations professionnelles et la sociologie des organisations. Jérôme Pelis, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Baptiste, tu es à mes côtés pour continuer les questions, l'entretien. Nous allons nous pencher avec vous sur le profil sociologique des travailleurs de la nuit et sur les débats que suscite ou que peut susciter la question du travail de la nuit.
Bonsoir Monsieur Pelis. Alors, dans la continuité de nos reportages qui ont été menés à différents moments et lieux où prend place la vie et l'activité nocturne, nous avions plusieurs questions pour éclairer nos auditeurs à travers le prisme de la sociologie donc, et du travail de manière à balayer les enjeux du travail de nuit en général. La première d'entre elles, c'est finalement qui sont, lorsque l'on parle du travail nocturne, qui sont celles et ceux de qui on parle. Celles et ceux qui huilent d'une certaine manière les rouages et rythmes de nos vies nocturnes, à la fois leurs profils sociaux, leurs profils d'âge, les types de travailleurs de la nuit selon un peu les besoins de notre société, et par la même occasion, existe-t-il une répartition particulièrement genrée des acteurs du travail de nuit ?
Bah, merci de m'inviter d'abord, même si je ne suis pas un spécialiste du travail de nuit, mais j'ai quand même étudié la question du temps de travail, des horaires. Et du coup, je peux quand même évoquer, j'ai aussi encadré une thèse sur le travail du dimanche et le travail de nuit. Et donc à ce titre-là, je peux vous raconter un petit peu des choses sur les profils. Donc on a surtout des hommes, de fait, qui travaillent la nuit. On est à plus de 18% des hommes qui travaillent la nuit, contre 8% des femmes, un peu plus. Donc il y a vraiment plus d'hommes que de femmes. C'est lié en partie au fait que le travail de nuit a été interdit aux femmes pendant très longtemps. Une des premières législations, c'est en 1892, qui interdit le travail de nuit des femmes. Et finalement, c'est par l'Europe, simplement à la fin des années 90, au début des années 2000, que la France va de nouveau autoriser le travail de nuit des femmes. Il y avait en réalité quand même des dérogations, mais globalement, pendant plus d'un siècle, le travail de nuit était interdit aux femmes pour des raisons de santé, des raisons de concurrence aussi. On a bien montré à travers des travaux historiques que les hommes en fait se protégeaient de la concurrence des femmes en leur interdisant d'accéder au marché du travail la nuit à l'époque. Voilà, et pour terminer là-dessus, il y a des profils très hétérogènes. On peut penser évidemment aux chauffeurs routiers, mais aussi aux policiers, tous les agents de services de santé dans le domaine de la santé qui travaillent de nuit. Il y a tout ce qu'on appelle le travail en continu dans les industries, dans lesquelles les machines ne s'arrêtent pas la nuit. Pour qu'elles soient rentables, il faut qu'elles travaillent 24-24. Donc on a des gens qui travaillent la nuit. Et donc globalement, voilà, on a une partie assez importante de travailleurs de nuit. C'est pas négligeable, presque 20% des hommes, presque 10% des femmes, si j'exagère un petit peu les chiffres, même si du coup, il y a quand même toujours une forte différence entre hommes et femmes.
Très bien. Et dans la continuité, du coup, cette répartition genrée des acteurs et actrices du travail de nuit, il y a deux reportages sur les bars et les transports qui l'abordent. Quelle vulnérabilité sociale cela engendre un peu sur les lieux et l'environnement de travail, mais aussi en dehors. Donc, on peut faire référence à la fois au trajet, au transport, aux lieux voisins des lieux de travail des personnes concernées.
Oui, donc évidemment, travailler la nuit, ça veut dire travailler dans un environnement particulier, à la fois à l'intérieur du travail, où il y a moins de public, moins d'activité. Donc souvent, les travailleurs expriment une forme de tranquillité dans le fait de travailler la nuit. On a moins de chefs sur le dos, on a moins de pression. Par contre, lorsqu'on sort de ce travail de nuit, et qu'il fait encore nuit, parce qu'évidemment, voilà, quand on a des tours qui se terminent à 8h du matin, ben voilà. Mais lorsqu'on sort au milieu de la nuit, là il y a une forme de vulnérabilité évidemment, parce que pour le coup il y a moins de transports en commun, donc pour rentrer chez soi c'est plus compliqué, notamment lorsqu'on est peu qualifié. J'ai oublié de dire que parmi les travailleurs qui travaillent la nuit, c'est beaucoup du travail non qualifié, peu qualifié en fait. Et du coup, il y a une forme de vulnérabilité liée au fait de quitter son travail ou de travailler la nuit, notamment lorsque c'est dans un espace public, comme les transports ou les épiceries ou les bars qui sont semi-publics, disons. C'est pas la même chose que de travailler la nuit dans une usine, où a priori on peut être plutôt au contraire protégé. Donc effectivement, il y a une grande hétérogénéité là-dessus, et la nuit peut contribuer à accentuer la vulnérabilité des travailleurs, et en particulier des travailleuses, lorsqu'elles quittent tard, par exemple, et doivent parcourir les rues, les routes, la nuit.
D'accord, et selon vous, est-ce que ça met justement en avant les questions de mise en place de stratégies sur les trajets retours, vraiment une... tout un aspect social finalement pour se prémunir de ces vulnérabilités-là.
Il faut, lorsqu'on a une voiture par exemple, on va la privilégier évidemment par rapport à des transports en commun qui n'existent pas ou même pour se protéger éventuellement de déplacements à pied en fait la nuit. Après, il y a des entreprises qui, ou en tout cas et des organisations syndicales ou représentatives du personnel qui ont réussi à obtenir des aménagements de la part de l'employeur comme le fait par exemple de payer le taxi lorsqu'on quitte tard le soir. Notamment chez les cadres, ça a pu arriver qu'il y ait des choses comme ça qui soient négociées dans des accords pour permettre aussi justement de protéger un peu les personnes qui partent tard ou au milieu de la nuit. Un des éléments intéressants, c'est que si le travail de nuit, peut-être qu'on y viendra après, mais a tendance à augmenter légèrement, il a décru évidemment au moment du Covid et depuis, il est presque revenu au niveau de 2019. Il y a eu quelque chose qui s'est passé au moment du Covid, évidemment pendant le confinement lui-même, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de travailler. Mais même après, la reprise du travail de nuit s'est faite assez lentement. Et aujourd'hui, on n'est pas complètement revenu au niveau de 2019, qui était un niveau assez élevé et qui était issu d'une augmentation du travail de nuit. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que se répand davantage en fait, ce qu'on appelle le travail en soirée. Donc, on n'est pas la nuit, mais on quitte tard. Alors, 2h du matin, c'est travailler de nuit. Hein. Mais lorsqu'on quitte à 21h ou 22h, et donc il y a des discussions sur les catégories, est-ce qu'on travaille la nuit lorsqu'on quitte à 22h ou 23h, par exemple ? Et donc les employeurs ont tendance à vouloir limiter ça ou à définir ça comme du travail en soirée, parce que le travail de nuit, si on le définit comme du travail de nuit, ça donne droit à des contreparties légales, en termes de rémunération, en termes de temps de repos compensateur, etc., que le travail de soirée n'ouvre pas. Donc vous voyez, il y a tout un tas de luttes intéressante aujourd'hui, notamment dans le commerce. Lorsqu'on a des grands magasins qui ferment à 21h, 22h, on est dans du travail de nuit ou du travail de soirée. Voilà, donc il y a des choses intéressantes qui se passent là-dessus depuis une dizaine d'années.
D'accord. Vous avez abordé la question un peu des syndicats, de l'augmentation du travail de nuit. Et justement, je voulais un peu faire l'écho d'un débat qui anime justement un peu la CGT, la CFDT, il me semble. Le débat justement sur la diminution, voire l'interdiction du travail de nuit. Est-ce que c'est un débat qui fait bien d'exister et pourquoi selon vous ? Et qu'est-ce qu'il met en avant en termes de conditions de travail de nuit.
Alors, le travail de nuit est maintenant très très bien identifié comme extrêmement pathogène. C'est quelque chose qui fabrique des maladies professionnelles, qui fabrique des malades, qui fabrique des morts. En fait, travailler de nuit, ça augmente fortement les risques d'accidents cardiovasculaires, les cancers, en particulier les cancers du sein pour les femmes. Ça augmente tout un tas de problèmes de sommeil, évidemment, puisqu'on est décalé, et ça a des impacts sur d'autres fonctions vitales et d'autres éléments de la santé. Aujourd'hui, c'est vraiment très, très bien établi par la littérature internationale, l'ANSES, etc. On a plein de rapports qui montrent que, épidémiologiquement, c'est néfaste pour la santé. Alors, c'est plus néfaste lorsque ce n'est pas régulier. Une des difficultés, c'est l'irrégularité. Ça augmente, en fait, ces problèmes-là. Lorsqu'on a un travail que de nuit, par exemple, on travaille toutes les nuits de manière systématique, c'est un petit peu moins pire. Mais globalement, plus ça s'étale dans la durée, plus on travaille longtemps de nuit, un an, 10 ans, 20 ans, plus les risques pour la santé s'accroissent de manière vraiment significative. Donc de ce point de vue-là, les syndicats réclament évidemment un recul du travail de nuit, une limitation du travail de nuit, ce qui n'est pas vraiment le cas. Je vous ai dit que ça avait plutôt augmenté, alors faiblement, hein, on est autour de 15-18% depuis très longtemps, mais il y a quand même une petite augmentation depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Et donc, de ce point de vue-là, les syndicats réclament, alors pas l'abolition du travail de nuit, hein, dans un hôpital, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent la nuit. mais en tout cas, leur limitation très forte à certaines populations, à certains moments, avec éventuellement des rotations pour que ce ne soit pas des gens qui travaillent la nuit pendant 15 ou 20 ans de suite, parce qu'on a montré encore une fois les effets sur la santé. De ce point de vue-là, l'ANSES, qui est donc l'Agence nationale pour la sécurité, l'environnement, de l'alimentation et du travail, qui est donc un groupe d'experts, en fait, hein, une agence auprès du gouvernement, a vraiment maintenant très, très clairement établi les effets délétères du travail de nuit. Et aujourd'hui, il travaille davantage sur cette question de la flexibilité, des variations, en fait, qui incluent le travail de nuit, mais pas que, et qui, là aussi, en termes de santé, auraient des effets négatifs.
Très bien. Et une question un peu plus ouverte. Justement, dans l'actualité récente, on parlait un peu de l'émergence de l'intelligence artificielle. Et est-ce que vous pensez que vis-à-vis de tout ça, dans le débat public, l'émergence justement du débat sur l'interdiction du travail de nuit pourrait de nouveau émerger
Alors, en lien avec l'intelligence artificielle, je ne vois pas trop. Pour l'instant, le lien n'est pas du tout fait. Je ne le fais pas spontanément, d'ailleurs. Parce que... La question, c'est plutôt est-ce qu'on peut remplacer des hommes par des machines, notamment la nuit, qui permettrait d'éviter de travailler la nuit. Mais ça, c'est plutôt des débats anciens sur l'automatisation, l'informatisation. Mais en même temps, souvent, dans ces usines qu'on va automatiser fortement, il y a encore besoin de présence humaine, peut-être moins. Et de fait, aujourd'hui, quand même, dans l'automobile, on ne travaille pas la nuit. Sauf exception, où on va avoir des phases de production très intenses et on va pouvoir passer en 3-8, comme on dit, hein, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, hein, les 2-8, les 3-8, les 4-8, les 5-8 même. Hein, donc ça veut dire qu'on a des tours, en fait, à chaque fois de 8 heures. Donc effectivement, ça peut arriver dans l'industrie, y compris l'automobile, qu'on puisse travailler en 3-8 lorsqu'il y a une grosse charge. Mais donc en période habituelle, on ne va pas travailler de nuit. D'abord parce qu'effectivement, ça a des effets sur la santé. Hein, les syndicats, les salariés, les employeurs le savent aussi. Et puis aussi parce que ça coûte cher, en fait, pour un employeur de faire travailler ses employés la nuit. Comme je l'ai dit, il y a des compensations, il y a des rémunérations plus élevées, il faut prévoir des jours de repos ensuite. Hein, et la loi est assez protectrice en la matière. Elle est plutôt respectée concernant le travail de nuit, plus que pour le travail du dimanche, par exemple. Voilà. Donc le lien, il est plutôt lié à cette question d'automatisation des usines, etc. Pour l'IA, alors évidemment, si on en vient à imaginer des bus autonomes qui pourraient rouler sans chauffeur, on imagine bien que dans ce cas-là, ça pourrait réduire le travail de nuit et la revendication pourrait surgir. Mais on n'en est pas encore là. Et pour l'instant, le débat n'est pas du tout posé entre le lien entre l'intelligence artificielle, digitalisation du travail avec l'intelligence artificielle et travail de nuit. Pour l'instant, le travail de nuit, il est plutôt sous les radars, à mon sens. C'est pas quelque chose qui est très porté dans les politiques publiques, par les acteurs, même si, encore une fois, on en connaît aujourd'hui de manière certaine les effets négatifs sur la santé et que la proportion des travailleurs de nuit ne se réduit pas. Elle a, encore une fois, plutôt tendance eu à augmenter ces dernières années.
Donc, un débat encore peu audible dans le débat public et dans l'expression des politiques publiques. Une question d'ordre un peu plus historicisante. En termes de partage social du travail, est-ce qu'on travaille davantage de manière nocturne que par le passé, selon vous ?
J'ai pas les chiffres en tête ici, mais ce que je dirais spontanément, c'est que dans le domaine de l'industrie, par exemple, l'industrie a beaucoup décru en termes de nombre de salariés qu'elle occupe. Et donc, je pense que ça a plutôt diminué par rapport à 75, qui était l'année où il y a eu le plus... Le secteur industriel était le plus fort en France et où il y a eu le plus d'ouvriers travaillant dans l'industrie. Pour autant, l'automatisation, encore une fois, le développement de machines et de tout un tas d'infrastructures qui exigent de tourner tout le temps, 24/24, pour être rentable, c'est développé. Donc ça a pu compenser en partie cette diminution du nombre d'ouvriers travaillant la nuit. Et puis, il ne faut surtout pas oublier qu'il n'y a pas du tout que dans l'industrie qu'on travaille la nuit. C'est un des résultats de la thèse de Pauline Grimaud que j'évoquais, c'est que en fait, lorsqu'on regarde les accords qui mettent en place le travail de nuit, puisqu'il faut des négociations, des accords, etc., y a beaucoup d'autres secteurs qui sont concernés, dans les services, dans le tertiaire, à l'hôpital, dans les services publics, dans la fonction publique territoriale, etc. On a aussi beaucoup ici de travailleurs et de travailleuses de nuit. Et donc, globalement, ce que je peux vous dire sur le fait qu'on qu'on aurait travaillé beaucoup plus la nuit auparavant qu'aujourd'hui. Non. On était toujours à une minorité de travailleurs de nuit. Mais malgré tout, encore une fois, à l'exception du Covid qui a eu un effet un peu durable, mais qui aujourd'hui est compensé en 2024-2025, on a quand même globalement, depuis les années 2000, une augmentation légère mais régulière du nombre de travailleurs et travailleuses de nuit.
D'accord. Et vous pensez que cette augmentation, elle pourrait s'accroître justement, vous parliez des années post-Covid, dans le futur?
Ben, à voir comment ici le corps social réagit. Voilà, c'est toujours pareil. Hein, lorsque, pour moi, le travail de nuit, il est en partie lié aussi à l'existence de rapports de force, en fait, entre le salariat et les employeurs. Et donc, si ce rapport de force est très défavorable aux salariés, parce que, par exemple, il y a beaucoup de chômage, eh bien, les employeurs ont plus facilement la possibilité d'imposer ou de proposer des postes de travail de nuit qui trouveront preneur. Si, au contraire, on a des pénuries de main-d'œuvre et des tensions sur le marché du travail, comme ça a pu être un peu le cas, mais où ça a été beaucoup mis en avant de manière pas forcément scientifiquement avérée, mais en tout cas, ça a été des discours très importants, y compris après le Covid. Hein, on a beaucoup parlé de ces pénuries de main-d'œuvre là, et ça joue les représentations aussi ici. On va trouver moins facilement de personnes acceptant de travailler la nuit, parce que, encore une fois, ça désynchronise les temps, ça a des effets sur la santé, mais aussi sur la vie sociale. Avoir une vie de famille lorsqu'on travaille de nuit, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Avoir des loisirs collectifs lorsqu'on travaille de nuit, c'est beaucoup plus compliqué. Ça génère de l'isolement, de la solitude, et ça nourrit tout un tas de difficultés qui ne sont pas uniquement en termes de santé physique, mais aussi en termes de santé mentale, de risques psychosociaux et de participation à la vie sociale plus globalement.
D'accord, donc un véritable enjeu de synchronisation sociale, biologique, physiologique. Et donc le travail de nuit est donc un rapport de force aussi, selon vous?
Disons que pour le comprendre, il faut aussi le ramener un peu à l'état du marché du travail et à ce qu'on propose aux salariés et à ce que ces derniers peuvent accepter, refuser, négocier à travers les relations qui se nouent lorsque on passe un contrat de travail. J'avais sorti quelques chiffres sur le travail de nuit parmi les indépendants. Il est aussi important, en réalité, puisque les indépendants, a priori, il n'y a pas de rapport de force. C'est eux qui choisissent. Évidemment, il y a un rapport de force puisqu'ils sont dépendants des clients, lorsqu'ils sont en position de sous-traitance. Et donc, voilà, globalement, on voyait qu'il n'y avait pas énormément de différence dans la proportion de salariés et d'indépendants. En tout cas, depuis les années 2010, auparavant, il y avait un peu plus d'indépendants qui travaillaient la nuit. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans les statistiques en 2013-2014, on a changé les manières de suivre cette question. Avant, on demandait aux gens s'ils travaillaient habituellement ou occasionnellement la nuit, ou jamais. Et en fait, depuis 2013-2014, on demande aux gens, est-ce que vous travaillez la moitié de vos jours la nuit, plus ou moins? Et donc, ça a rompu la série. Donc, évidemment, on a beaucoup plus de gens qui travaillaient occasionnellement la nuit que de gens qui travaillaient la moitié des... Voilà. Mais donc, du coup, la proportion de salariés travaillant la nuit selon cette définition a diminué. Mais en réalité, c'est parce qu'on a changé d'indicateur. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre que la proportion de salariés qui travaillent habituellement la nuit, celle qui nourrit ces problèmes de santé, de vie sociale et autres en particulier, c'est elle qui a plus tendance à augmenter dans les années 2000. Par rapport à la proportion de salariés qui travaillent simplement occasionnellement la nuit, qui a des effets moins délétères sur la santé, la vie sociale, etc.
D'accord, merci beaucoup.
En tout cas, merci à vous, puis c'est chouette que vous ayez mis l'accent sur ce thème. Je vous ai dit, il est peu dans l'actualité, donc voilà, ça sert aussi à ça, le journalisme, d'investigation, ou en tout cas, de porter des sujets qui ne sont pas dans l'actualité, mais qui ont des enjeux toujours importants.
Ce sera le mot de la fin. Merci Baptiste pour ces entretiens. Merci beaucoup Jérôme Pelis de votre précieuse contribution à cette discussion. Merci de nous avoir éclairés sur le travail de nuit. Merci Baptiste, merci aux réalisatrices et réalisateurs des portraits et documents que nous avons entendus et qui ont ponctué notre discussion. C'était Le Travail de la Nuit, voyage parmi les invisibles, une émission des étudiants et étudiantes de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, sous la supervision de Margot Page, à la technique Paul, à la réalisation Margot. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne soirée sur Radio Campus Paris.